Radio Kapi. Madame, monsieur, bonjour. Constitution du fichier général de la population, la CENI a remis hier à Kinshasa le fichier électoral de 2022 à l'Office national pour l'identification de la population. Cela va renforcer la gouvernance administrative, estime le directeur de l'ONIP. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Situation dans l'est de la RDC, malgré un cessez-le-feu annoncé pour le 18 février, des combats se poursuivent entre les FARDC et la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda dans les deux Kivu. Marcel Papimoukeba nous fera le point de la situation. Au sud Kivu, la route nationale numéro 5 disparaît lentement mais sûrement. L'administrateur du territoire de Fizi s'en inquiète et alerte les autorités à tous les niveaux. Sami Kalonji Badibanga est notre invité aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, parlons de la pluie qui a réveillé les Kinois ce vendredi au matin depuis 4 heures. Outre les inondations sur plusieurs routes, les dégâts sont enregistrés également dans plusieurs communes, notamment des érosions. Nous allons écouter tour à tour le bourgmestre de Mongafula, celui de la commune de Selembao, mais également celui de Lemba. Tous ont été joints au téléphone par Nancia Tambo. Nous allons écouter donc les bourgmestres de Mongafula, tour à tour, celui de Selemba ou également celui de Lemba.
Au quartier plateau 1, une famille qui a perdu la vie, le mur s'est écroulé sur leur maison. Alors, ils sont décédés. Moi, je devais arriver là-bas, mais la route, elle est vraiment impraticable. Mais tous les services sont là. Ils ont été tirés du décombre. Donc, j'attends les rapports finaux.
Nous signalons les dégâts constatés dans plusieurs quartiers aujourd'hui. Et il y a même l'inondation dans le quartier Monatoun Koulou, où la rivière Makelele a rejeté de l'eau. Mais non, il y a des parcelles abandonnées par les gens parce qu'il y a eu débordement de la rivière Makelele dans d'autres quartiers comme Parla, Badjadin, Kimbembe, dans la cité Camping, quartier Molende. On a enregistré vraiment la progression de plusieurs érosions. C'est pourquoi je lance vraiment un appel aux autorités de pouvoir vraiment venir nous aider. Comme ils ont pris en charge l'érosion de quartier Kim, ils puissent maintenant vraiment s'occuper des érosions de Badjadin et Camping. Sinon, c'est la route du 24 novembre qui est menacée.
Plein d'érosions qui se sont aggravées encore en Banzalemba. Salongo et Livoulou. Livoulou, c'est inondation. Salongo, inondation. Et au niveau de Banzalemba, il y a vraiment un grand souci avec les érosions.
Merci pour ces informations, Nancia Tambo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement remis hier jeudi à Kinshasa le fichier électoral de 2022 à l'Office national pour l'identification de la population ONIP. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui a présidé cette cérémonie, c'est en vue de la constitution du fichier général de la population. Autre précision avec Alain Rung.
Pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une étape structurante importante. Derrière chaque donnée, il y a un citoyen, une famille, un droit à protéger et une sécurité à garantir, dit-il. De son côté, le directeur général de l'ONIP estime que ce fichier constituera une base technique importante pour moderniser l'état civil, améliorer la planification publique et renforcer la gouvernance administrative. Richard Ilunga.
L'ONIP s'engage à les traiter et à les compléter avec sa stratégie d'identification par stratification qui s'appuiera également sur la mutualisation avec d'autres institutions de la République.
Le président de la CENI a quant à lui parlé de la nécessité d'actualiser ce fichier. Denis Kadima.
Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, prendre en compte le changement de résidence et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022.
Le vice-premier ministre Jacquemin Chabani a souligné que la consolidation de ce fichier est la colonne vertébrale des politiques publiques essentielles telles que la carte d'identité, la lutte contre la fraude et la criminalité, le contrôle des flux migratoires ainsi que la planification sanitaire et éducative.
Situation dans l'est de la RDC, malgré un cessez-le-feu annoncé pour le 18 février à midi, les combats se poursuivent entre les FARDC et la rébellion de l'FC 123 soutenue par le Rwanda au nord et au sud Kivu. Cette trêve avait été proposée le 11 février par l'Angola à l'issue d'une rencontre diplomatique à Luanda. Était réuni à cette occasion le président angolais João Lourenço, le médiateur togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Mais sur terrain, les armes continuent de parler, nous dit Martial Papimukeba.
Jusqu'à jeudi, des violents combats opposés dans les moyens et au plateau du territoire de Fizi au sud Kivu, les FRDC appuyés par les Wazalendo à la coalition Tuiraneo Ngumino Android alliée à l'AFC M23. Ces affrontements visent le contrôle de la zone stratégique 10.0 qui ouvre l'accès aux provinces du Tanganyika vers Kalemi et du Maniema vers Salamabila. Il est difficile de savoir qui contrôle la zone. Au nord Kivu, la situation reste tendue. Depuis tôt ce matin, l'AFC M23 affronte les Wazalendo du Pariko à Mitimingi, Kaunda et Mbiso dans les territoires de Masisi, tandis que des combats sont également rapportés dans certaines localités du territoire de Rutshuru. Si la RDC a annoncé son adhésion au cessez-le-feu proposé par l'Angola, l'AFC M23, elle, s'engageait pour un cessez-le-feu immédiat dans le cadre du processus de Doha. Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Le commissariat provincial de la police nationale congolaise PNC au nord Kivu installé à Beni, chef de police de la province depuis l'occupation du Goma par l'FC M23 il y a un an, a reçu ce jeudi du matériel informatique de la part de UNPOL, la police de la MONUSCO. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chef de UNPOL en mission de 2 jours à Beni. La police nationale congolaise s'est réjouie de ce don qui, selon son commissaire provincial adjoint au nord Kivu, va lui permettre de mieux répondre aux besoins de la population. Que comprend exactement ce don, Marc Marofimbo?
La dotation comprend des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ainsi que des imprimantes. Le commissaire provincial adjoint de la police au Nord Kivu, Sangui Ndolo Harley, s'est félicité de la bonne collaboration entre la PNC et la police de la MONUSCO.
Nous louons cette collaboration qui existe entre la police nationale congolaise et la police MONUSCO. Et c'est ce qui témoigne aujourd'hui qu'ils puissent penser à nous pour nous accorder cette donation. Que cette collaboration continue pour que nous puissions accomplir la mission qui nous est assignée.
De son côté, l'inspectrice générale Mamouna Odrago, chef de la police de la MONUSCO, a rappelé l'importance de cette dotation.
Notre appui d'aujourd'hui en matériel informatique vise à renforcer les capacités de la police nationale congolaise pour la bonne exécution de leurs activités quotidiennes. Les personnels n'ont pas besoin seulement de formation. Il faudra également que cela soit accompagné par de l'équipement pour leur permettre souvent de mettre en œuvre la formation qu'ils ont reçue.
Rappelons que dans la région de Beni, la police de la MONUSCO appuie également la police nationale congolaise à travers plusieurs formations à vue de renforcer ses capacités opérationnelles et d'améliorer la protection des civils. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et en Ituri, des militaires des FARDC ont été arrêtés pour avoir profané la paroisse catholique Saint-Joseph Travailleur de Boulé dans les territoires de Djougou. Dans une plainte adressée à l'autorité provinciale, le diocèse catholique de Bounia accuse ces militaires de pillage et de vandalisme au sein de l'église. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, il s'agit de violations graves du droit international humanitaire, droit qui encadre l'action des forces armées. Isaac Remo explique.
Dans son message adressé au gouverneur des provinces, les diocèses catholiques de Bounia a fustigé les importants dégâts matériels causés au bâtiment de l'église, toitures endommagées, murs fissurés et vitres brisées. Ces dommages seraient survenus lors des affrontements entre les FARDC et la milice Convention pour la Révolution Populaire, la CRP. Les diocèses dénoncent également des actes de pillage attribués à certains militaires des FARDC après la reprise de la localité aux miliciens. Des menaces contre des membres du clergé auraient aussi été signalées. Face à ces faits, l'Église catholique exige que justice soit faite. Un extrait du message lu par les chanceliers du diocèse.
La paroisse Saint-Joseph de Boulé vient d'être le théâtre d'une profanation ciblée des éléments des FRDC qui contrôlent le centre de Boulé. La curie diocésaine s'en remet aux autorités provinciales et nationales pour que justice soit faite.
Saisi de ces cas présumés de violation des droits humains, le gouverneur de province a instruit l'arrestation des militaires impliqués. 5 d'entre eux ont déjà été transférés à l'auditorat militaire. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri.
L'administration militaire condamne avec la plus grande fermeté ces comportements indignes que le militaire impliqué. Ils devront répondre de leurs actes.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous sommes au Sud-Kivu. Le coût de la vie devient de plus en plus intenable à Shabunda, plus précisément dans la chefferie de Baliga. Les produits de première nécessité se font rares, par conséquent, leur prix galope. Les marchandises en provenance des villes de Bukavu et Kindu n'arrivent plus à Shabunda centre pour deux raisons. D'abord à cause de l'insécurité, de la multiplicité des barrières payantes sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Shabunda et ensuite à cause du délabrement très avancé des infrastructures sur l'axe Kindu-Shabunda. La synergie de mouvements citoyens, forum des nationalistes appellent à une solution urgente afin de sauver la population du territoire de Shabunda de cette crise socio-économique qui sévit dans la contrée. Jules Maguené, coordonnateur de la Synergie, explique la situation au micro de Jean Kassami.
C'est depuis janvier-février ici que nous avons constaté la hausse vertigineuse des produits des premières nécessités. Un verre qu'on achète à 500 francs congolais à Bukavu, à Baliga, c'est à 5000 francs congolais. Un verre des haricots qu'on achète à 500 francs congolais, c'est à 5000 francs. Un poisson salé qu'on achète à 20 000 francs, c'est à 100 000 francs. Un litre de carburant qu'on achète à 3 500 francs congolais, c'est à 36 500 francs congolais. Un verre de sel qu'on achète à Bukavu à 400 francs, 500 francs. Ici, c'est à 10 000 francs congolais. Ce qui a occasionné cette hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité dans les territoires de Shabunda, c'est la fermeture du tronçon routier Bourale-Shabunda. D'un côté, c'est la FCM-23 qui bloque. De l'autre côté, sont les phares d'essai et les Wazalindo qui bloquent. Il y a également l'impraticabilité dans les territoires de Shabunda. La route est quasi inexistante.
Voilà, question de ça, parlons de ces échanges d'expérience sur l'entrepreneuriat organisé hier jeudi par l'ambassade des États-Unis pour la secrétaire administrative et financière du Comité consultatif national CCN. On ne doit pas tout attendre du gouvernement. Au micro de John Chibwabwa, Jolie Johanna Mugisa appelle artistes et entrepreneurs à s'autosuffire. On écoute.
5 sur le thème économie par les arts. Donc, voilà.
Oui, alors ce que nous voulons savoir, vous avez participé dans quel programme et qu'est-ce que vous avez eu comme acquis réellement de ce programme et comment comptez-vous l'implémenter dans le travail que vous faites?
Alors, j'ai été dans le programme développement économique par les arts en 2025. Nous avons eu à être dans plusieurs états et les leçons apprises, c'est beaucoup plus la prise en charge locale. Dans le sens que on n'attend pas tout du gouvernement et tout ce qu'on fait qui peut être financé, c'est d'abord pour un impact économique et un impact sur la communauté pour laquelle on organise ces activités-là.
Voilà, vous venez de suivre donc Jolie Johanna Mugisa, secrétaire administrative et financière du Comité consultatif national CCN. La mutuelle de santé des enseignants est opérationnelle dans la province du Maniema depuis hier. C'est le gouverneur de province qui a officiellement lancé les activités de cette structure qui a pour objectif d'assurer des soins de santé de qualité aux enseignants ainsi qu'à leurs dépendants. D'après le chef de l'exécutif provincial, pour qu'un enseignant dispense des enseignements de qualité, il doit lui-même être en bonne santé. Florence Kizalunga. Reportage.
Les enseignants du Maniema sont très heureux de savoir qu'ils seront désormais pris en charge, eux et leurs dépendants, par la mutuelle de santé. Chembelo Pongo est leur porte-parole.
Vraiment, l'enseignant du Maniema est en pleine joie de recevoir aujourd'hui de la mutuelle de santé pour enseignants. Nous avions beaucoup attendu cette installation ici. Nous espérons à ce que l'enseignant du Maniema soit soigné gratuitement, qu'il ne puisse pas dépenser son maigre salaire.
Pour sa part, Marie-Faustine Beloko, secrétaire exécutive nationale, appelle les enseignants au sens de responsabilité.
En tant que votre propre œuvre, vous avez l'obligation de la protéger. Vous êtes des acteurs essentiels dans la réussite éducative, alliant rigueur, bienveillance et engagement. Qu'il vous plaise, chers enseignants, de vous conformer aux directives de sa coordination. Je vous invite à ne pas user de la fraude ou de tout autre subterfuge dont les prestations qu'offrent votre mutuelle. Rappelez-vous que vous êtes aujourd'hui la seule corporation d'agents et fonctionnaires de l'État à disposer d'une mutuelle de santé que l'État subventionne.
Sachez que le Maniema est la 15e province opérationnelle sur la liste de la MSP. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. Une vingtaine de femmes leaders sont désormais mieux outillées et mobilisées pour contribuer à la paix et à leur propre autonomisation dans cette région meurtrie par la guerre. Elles ont clôturé hier jeudi à Goma un atelier de 2 jours organisé par l'ONG Voice of Kivu Women en collaboration avec la section genre de la MONUSCO. La formation visait à renforcer les capacités de ces leaders féminins en tant que futures formatrices. Que retenir d'autre, Bernard Denyangui?
À travers cette formation accélérée, les organisateurs entendaient préparer ces femmes à lancer une vaste campagne de sensibilisation auprès de leurs pères. C'est ce qu'explique Shabani David, coordonnateur de l'ONG Voice of Kivu Women.
Pour le moment, on considère la femme comme une cellule de la communauté dans la situation des guerres où nous nous retrouvons dans un territoire sous occupation. La femme est en train de subvenir aux besoins de la communauté et son autonomisation est beaucoup plus pour subvenir aux besoins de la population et la résilience communautaire.
Pour les participantes, cet atelier a été un véritable appel à l'action, comme le souligne Madame Charlène Iragi.
Cet atelier nous a amené plus à agir. Madame Nathalie, j'ai beaucoup aimé sa phrase que c'est lamenter si son sort, c'est du gaspillage. Elle nous a amené à prendre conscience qu'il faudra mieux une journée d'action qu'une année de lamentation.
6 grands thèmes ont été abordés durant les 2 jours. La paix, la lutte contre les violences basées sur le genre, le leadership féminin, entre autres. Selon les organisateurs, cette formation prépare également les activités du mois de mars dédiées à la femme.
Actualité internationale.
La justice marocaine a condamné hier 19 supporters à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison pour hooliganisme. C'est en rapport avec les heurts enregistrés lors de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Selon africanews.fr, l'accusation inclut des actes de violence, notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse, ainsi que des jets de projectiles. 18 Sénégalais en français d'origine algérienne ont donc été condamnés. Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils comptaient faire appel de la condamnation qu'ils jugent sévère.
L'invité.
Au sud Kivu, la route nationale numéro 5 disparaît lentement mais sûrement. L'administrateur du territoire de Fizi s'en inquiète et alerte les autorités à tous les niveaux. Sami Kalonji Badibanga demande au gouvernement provincial et au ministère national des infrastructures d'accorder une attention particulière sur cette route qui constitue le poumon économique du territoire de Fizi. Sami Kalonji Badibanga est notre invité. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le territoire de Fizi renferme-t-il encore la même fraîcheur qu'on y a connue il y a quelques années?
Pendant plusieurs années, le territoire de Fizi, c'est un territoire martyr, un territoire sinistré. C'est depuis 1964 que ce territoire a connu plusieurs guerres qui ont retardé son développement et mis à mal le décollage socio-économique de ce beau territoire. Voilà qu'avec ces différentes guerres, Fizi a connu le pillage de ses ressources naturelles et aussi la destruction de sa faune et flore. Avec la prise de Bukavu, la prise de la ville d'Uvira, le territoire de Fizi a connu plusieurs difficultés socio-économiques voire même environnementales qui ont négativement impacté l'écosystème de ces territoires.
À quel degré la présence de groupes armés et de combats à répétition impacte-t-il l'environnement dans les territoires de Fizi?
Vous savez qu'à Fizi, nous avons la réserve d'Enganja. Nous avons aussi la forêt de Mabondo, communément appelée la forêt Ewabora dans le secteur de Lulenge. Dans cette forêt, nous avons plusieurs groupes armés, notamment le Ré de Tabara, le FNL de Zabampema, qui vivent et exploitent de l'or, coupent les bois rouges et aussi les autres bois pour la fabrication de braise. Cette situation a un impact négatif sur l'écosystème avec la dégradation de l'environnement. Avec la destruction de l'écosystème, l'abattage abusif des arbres sur toute l'étendue du territoire de Fizi, nous avons connu plusieurs catastrophes naturelles, notamment la plus grande catastrophe naturelle de Kassaba, où plusieurs victimes avaient été ensevelies dans la boue suite au glissement d'un grand morceau de terre. À Kassaba, nous avons enterré plus de 12 enfants d'une même famille à Kiminou, suite aussi à l'écoulement des morceaux de terre près d'une école conventionnelle catholique en Kelecha. Nous avons connu les vents violents qui ont emporté des maisons à Mukera, à Kananda, voire même à Fizi centre. Nous avons connu la crue de rivière sur les littorales du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, où les maisons avaient été emportées, et des personnes ensevelies, des champs détruits par cette situation. Et aussi pour les gens qui traversent la rivière Mutambala vers les chefs-lieux du secteur de Mutambala à Malinde, sur les ponts, la rivière est en train de se rétrécir, parce que quand vous voyez la rivière à l'époque, c'était une grande rivière. Pour le moment, la rivière est en train de devenir beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'en amont de cette rivière, il y a une exploitation. Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, coupé, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, commencer aussi à exploiter de l'or. Quand ils trouvent qu'un espace est occupé par un grand gisement d'or, ils sont obligés d'amener des machines qui doivent leur permettre d'abattre les arbres pour arriver à exploiter facilement de l'or dans notre territoire de Fizi.
Quelle voie de sortie serait-elle envisageable pour que Fizi recouvre encore aujourd'hui la plénitude de son écosystème?
L'écosystème du territoire de Fizi est en danger. La biodiversité est détruite. Fizi était connue pour sa faune et sa flore très riches. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Fizi, la faune n'existe pas parce que les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire de Fizi, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel et qui est les arbres et les herbes. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. Voilà, aujourd'hui, les animaux n'existent pas à Fizi. Et ceux qui existent vont plus loin dans les territoires voisins où ils peuvent facilement trouver la bonne herbe pour leur alimentation. Nous avons aussi la flore, où on pouvait trouver de belles fleurs, des arbres médicinales, mais pour le moment, ça n'existe pas.
Sami Badibanga, merci.
Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi dans le Sud Kivu. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Richard Junon Kamunga, mis en onde par André Mungu. Babette Pongomassimango vous l'a présenté. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci de votre attention.